Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mardi 6 juin 2023. Arrestation au Kenya d'une dizaine de manifestants opposés à de nouvelles taxes. L'Éthiopie rejette les accusations de Human Rights Watch sur le nettoyage ethnique au Tigré. En RDC, 7 soldats ont été condamnés pour des crimes dans le sud Kivu. Au Sénégal, les intellectuels prennent position dans la crise que traverse le pays.
Et puis, il y a une première au Sénégal, hein, depuis Senghor jusqu'à Abidjan, Abdoulaye Wade, et j'ai dit ma fille-femme. Les intellectuels sénégalais ont toujours des positions et disent ce qu'ils pensent pour la situation du pays quand les choses sont en crise.
Alassane Samba Diop, patron de presse depuis Dakar, nous donnera des précisions dans la partie magazine. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir détruit le barrage de Kharkovka. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. On commence par la crise en Ukraine. Des dirigeants africains cherchant à contribuer à un arrêt de la guerre en Ukraine se sont mis d'accord lundi pour une mission de médiation à la mi-juin en Russie et en Ukraine, a annoncé aujourd'hui la présidence sud-africaine. Les membres de la mission identifiés le mois dernier par le président sud-africain sont, outre ce dernier, les dirigeants du Congo-Brazzaville, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Zambie. Le chef de l'État des Comores, Azali Assoumani, a assisté à la réunion virtuelle de lundi en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. La destruction partielle tôt ce matin du barrage de Kharkovka dans le sud de l'Ukraine, dont s'accusent mutuellement Moscou et Kiev, a entraîné l'inondation d'une vingtaine de localités et l'évacuation de milliers de personnes, suscitant un tollé international. Jack Aristide.
Le président ukrainien accuse la Russie d'avoir fait exploser une bombe sur le barrage après l'avoir miné. Cet ouvrage, l'une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine, a été pris par les Russes dès le début de leur offensive. Volodymyr Zelensky ajoute qu'il est physiquement impossible de le faire sauter d'une manière ou d'une autre de l'extérieur avec des bombardements. La version donnée par Moscou. Le monde doit réagir. La Russie est en guerre contre la vie, contre la nature, contre la civilisation. Cela aura des conséquences terribles sur la vie des gens, affirme encore le président Zelensky, estimant par ailleurs qu'un cessez-le-feu en Ukraine ne mènera pas à la paix. Pour Kiev, les Russes ont agi ainsi en vue de freiner l'offensive de son armée. La Russie dit pour sa part repousser ses attaques d'envergure, tout en reconnaissant la mort ces derniers jours de 71 de ses soldats dans ce contexte. Concernant le barrage, le Kremlin évoque un acte de sabotage délibéré de Kiev et rejette fermement les accusations ukrainiennes. Les autorités locales installées en Ukraine par Moscou ont incriminé de multiples frappes ukrainiennes sur cet ouvrage.
La destruction partielle d'un barrage en Ukraine a certainement fait de nombreux morts, selon un porte-parole de la Maison-Blanche qui a indiqué n'avoir pas de conclusion définitive sur ce qui s'est passé. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a par ailleurs mis en garde contre un impact dévastateur pour l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine de la destruction partielle du barrage hydroélectrique de Kharkovka dans le sud du pays. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé ce mardi en Arabie Saoudite avec le but affiché de renforcer les relations entre Washington et Riyad, parler du conflit au Soudan et d'une normalisation avec Israël. Cette visite de 3 jours survient sur fond de rapprochement historique entre l'Arabie Saoudite et deux ennemis des États-Unis, l'Iran et la Syrie, amorçant un changement de la donne géopolitique dans la région.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité en Afrique, la police kenyane a tiré aujourd'hui des gaz lacrymogènes et arrêté 11 manifestants lors d'une marche à Nairobi contre un projet de loi de finances qui instaure de nombreuses nouvelles taxes, les précisions de John Lydon.
Le texte, qui doit être discuté cette semaine au Parlement, prévoit que ces nouvelles taxes, notamment sur les produits de beauté, les carburants ou les crypto-monnaies, rapporteront environ 2 milliards d'euros et devraient accroître le budget de 24 milliards d'euros prévu pour les exercices 2023-2024. Abat la loi de finances, a scandé la centaine de manifestants qui marchaient vers le Parlement depuis le centre-ville de Nairobi. Nous manifestons pour exprimer nos frustrations. Les gens ont besoin d'argent, a déclaré Rogers Obogi, un chômeur de 23 ans. Amnesty Kenya a appelé à la libération immédiate des 11 personnes interpellées, affirmant que le droit de s'exprimer et de participer au débat public est sacré en vertu de la Constitution kényane et du droit international. Les opposants au chef de l'État l'accusent de renier ses promesses de campagne. Le président William Ruto, élu à août 2022, cherche à réduire le déficit d'une économie lourdement endettée laissée par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, dont il fut le vice-président.
Le principal parti d'opposition au Burundi, le Conseil national pour la liberté, a vu ses activités suspendues par le ministère de l'Intérieur en raison d'irrégularités lors de ses deux derniers congrès. Le secrétaire général du CNL, Simon Bizimungu, a dénoncé une violation grave de la Constitution et de la loi sur les partis politiques qui interdit toute ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement des partis. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a appelé aujourd'hui tous les Sénégalais à s'abstenir de toute violence, se disant confiante dans leur capacité à mettre fin à l'accès de violence dans leur pays par un dialogue inclusif, pacifique et démocratique. Le Sénégal a été en proie la semaine dernière à ses pires violences depuis des années après la condamnation d'Ousmane Sonko, opposant au président Macky Sall et candidat à la présidentielle de 2024. En République démocratique du Congo, 7 soldats congolais ont été condamnés par la justice militaire pour des crimes commis dans le sud Kivu, province de l'est du pays en proie à des violences armées. Claire Morin-Jibourou.
Ces peines infligées à des militaires inciviques prouvent que l'armée ne peut tolérer l'impunité en son sein, a affirmé le lieutenant Jérémy Meya, porte-parole de la 12e brigade de réaction rapide basée à Minembwe. 6 soldats de première classe et un adjudant ont été condamnés à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité. 4 des accusés ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour meurtre, extorsion et mutilation de cadavres. 2 ont écopé de 20 ans de prison pour tentative de meurtre ou vol à main armée. 1 a été condamné à 10 ans pour extorsion. Selon le porte-parole, la plupart des faits jugés ont été commis en novembre 2022, généralement contre des civils, mais aussi à l'encontre de militaires.
Le gouvernement éthiopien rejette les récentes accusations de Human Rights Watch faisant état d'une campagne de nettoyage ethnique dans l'ouest de la région du Tigré. Les autorités disent que l'ONG ne s'appuie sur aucune preuve. Yakuba Ouedraogo.
Dans un rapport publié le 1er juin, Human Rights Watch affirme que des unités paramilitaires et des milices de la région voisine de l'Amara continuent d'expulser par la force les Tigréens de la zone du Tigré occidental dans le cadre d'une campagne de nettoyage ethnique. L'Organisation de défense des droits humains a publié ces accusations sans mener d'enquête rigoureuse et crédible dans les zones concernées, s'insurge le service de communication du gouvernement éthiopien. Cette description déformée et trompeuse de la situation vise à saper la coexistence pacifique, alimenter le conflit interethnique, poursuit le gouvernement. Un accord signé en novembre à Pretoria par le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités régionales rebelles du Tigré a mis fin à 2 ans de guerre brutale dans le nord de l'Éthiopie. Le Tigré occidental est un des points sensibles non réglés par cet accord. Les forces Amara qualifient la question de ligne rouge et y maintiennent leur contrôle. De leur côté, les autorités tigréennes ne veulent pas renoncer à cette portion du territoire. Le gouvernement rappelle qu'il a entamé un processus de consultation nationale pour mettre en place une justice transitionnelle prévue par l'accord de Pretoria.
Tida Thierry, combat de rue et explosion ont fait trembler aujourd'hui Khartoum, la capitale du Soudan, où armées paramilitaires se disputent le pouvoir pour la 8e semaine consécutive alors que la situation humanitaire s'aggrave. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a défendu aujourd'hui, lors d'une visite à Tunis, une approche pragmatique. Après avoir rencontré le président Kais Saied pendant près de 2 heures, Mme Meloni a rappelé que l'Italie menait une action de soutien à la Tunisie dans ses difficultés, dans ses difficiles pourparlers avec le Fonds monétaire international pour obtenir un prêt de 2 milliards de dollars. Et puis, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi entretenu aujourd'hui au téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la suite d'un rare incident meurtrier à la frontière entre les deux pays, a annoncé la présidence égyptienne. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lindon.
L'Afrique de l'Est concentre près des deux tiers des financements récoltés par des start-up africaines actives sur le continent. Selon les données publiées par le cabinet de conseil en économie numérique Tech Cabal Insight et relayées par l'agence Ecofin, les levées de fonds réalisées par les start-up africaines durant le mois de mai 2023 ont totalisé un peu plus de 621 millions de dollars, enregistrant ainsi une hausse de 42% par rapport au même mois de 2022. L'Afrique du Sud a enregistré une légère croissance au premier trimestre 2023, éloignant le spectre d'une récession, selon les données publiées mardi par l'Agence nationale des statistiques. Le pays le plus industrialisé d'Afrique a ainsi vu son PIB croître de 0,4% sur les trois premiers mois de l'année, après un recul de 1,1% au dernier trimestre 2022. L'autorité américaine des marchés financiers, la SEC, a signé Coinbase mardi devant la justice. La première plateforme d'échange des crypto-monnaies des États-Unis est accusée de ne pas s'être enregistrée auprès du gendarme des marchés en tant que plateforme d'échange et intermédiaire des transactions en crypto-monnaies. Fin 2022, Coinbase comptait 110 millions d'utilisateurs et 80 milliards de dollars d'actifs logés sur sa plateforme.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Rami Ben Sebaini s'engage à Dortmund.
Oui, l'international algérien en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour les quatre prochaines saisons jusqu'à l'été 2027, selon l'annonce faite par le Borussia Dortmund. Défenseur gauche, Rami Ben Sebaini viendra pallier le départ de l'international portugais, Rafael Guerreiro, lui aussi en fin de contrat à Dortmund et qui ne prolongera pas son bail avec le club de la Ruhr. Après trois saisons passées à Rennes de 2016 à 2019, il est arrivé à Gladbach à l'été 2019 et a disputé la Ligue des Champions lors de la saison 2020-2021. Le Borussia Dortmund a conclu la saison 2022-2023 à la deuxième place, devancée par le Bayern Munich à la différence de but général.
Transfert toujours, Karim Benzema a signé avec le club saoudien d'Al Ittihad.
Le ballon d'or français en partance du Real Madrid s'est engagé pour trois ans avec le club saoudien d'Al Ittihad, basé à Jeddah. Karim Benzema a joué son dernier match avec le Real dimanche après 14 saisons passées au sein du club madrilène. À 35 ans, Benzema vient ajouter son nom à une riche liste de poids lourds venus monnayer leurs services pour une dernière pige avant de ranger définitivement les crampons. D'autres grands noms sont toujours dans le viseur de l'Arabie saoudite comme Lionel Messi.
Marco Asensio, lui, est proche de signer au Paris Saint-Germain.
L'attaquant espagnol, libre en provenance du Real Madrid, a passé sa visite médicale à Paris et devrait signer au Paris Saint-Germain. À 27 ans, Marco Asensio devrait donc arriver à Paris la saison prochaine après avoir passé quasiment 10 ans au Real Madrid. En fin de contrat fin juin, le joueur a annoncé samedi qu'il quitte le Real. Il a un palmarès impressionnant avec la Maison Blanche, 17 titres, dont 3 Ligues des Champions, le tout pour 285 matchs et 61 buts. Avec cette première grosse recrue, le PSG, après avoir acté les départs de la star argentine Lionel Messi et Sergio Ramos ce week-end, commence son offensive estivale.
L'Espagne et le Brésil joueront un match amical contre le racisme en 2024.
L'annonce est faite par la Fédération espagnole de football qui précise que l'Espagne et le Brésil disputeront ce match amical en soutien à la lutte contre le racisme en mars 2024. Dans un communiqué, les fédérations des deux pays disent que cette rencontre servira à soutenir l'engagement des deux entités contre les violences dans le football. Le match sera organisé en Espagne et s'il se trouve que l'Espagne a des engagements officiels durant cette fenêtre internationale, on cherchera une nouvelle date dans le calendrier, a détaillé la Fédération espagnole de football. Cette annonce arrive deux semaines après les insultes racistes essuyées par le jeune attaquant international brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, le 21 mai à Valence, qui ont déclenché une vague de soutien dans le monde entier et une série de 7 arrestations en Espagne.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Dans une tribune intitulée « Cette vérité qu'on ne saurait cacher », trois intellectuels sénégalais dénoncent les actions répressives du gouvernement, la détention d'opposants et la corruption de l'élite politique. Ils attribuent la récente vague de violence au Sénégal à la dérive autoritaire du président Macky Sall et aux soupçons selon lesquels le chef de l'État sénégalais envisagerait de briguer un troisième mandat en 2024. Pour comprendre cette démarche, Eric Manirakiza a joint à Dakar Alassane Samba Diop, journaliste et analyste politique.
Mais je pense que les intellectuels sénégalais sont dans les rooms. Le rôle de l'intellectuel, c'est quand son pays est en situation, comme on l'a décrit, c'est de sortir, de porter sa voix, de parler au nom du peuple. Je pense que c'est tout à fait naturel que les intellectuels sénégalais sortent, parlent de la situation du pays. Et ce n'est pas une première au Sénégal, hein, depuis Senghor jusqu'à Abidjan, Abdoulaye Wade, les intellectuels sénégalais ont toujours pris position et dit ce qu'ils pensent pour la situation du pays quand les choses sont en crise.
Est-ce que c'est un appel qui a eu de l'écho dans l'opinion?
Oui, l'opinion interprète ça aussi de façon aussi diverse, parce que chacun dit que ces intellectuels-là, ils ne parlent que dans un sens, c'est-à-dire qu'ils condamnent l'État du Sénégal et condamnent le président Macky Sall, mais aussi ils oublient de condamner et ils ne sont pas qu'à faire l'insurrection. Donc les gens se disent que les intellectuels doivent aussi être équidistants par rapport justement à l'équipe de position. Quand ils sont condamnés l'État du Sénégal qui est en train de faire un travail pour que ce soit qui est condamnable, les intellectuels doivent aussi se prononcer sur une autre position qui est radicale, qui a fait le tort. La liberté, quand certains gens mettent le but, d'autres aussi ont pris de plus en disant autre chose. Ils font ça dans un pays démocratique. Mais l'important aujourd'hui qui concerne les Sénégalais, c'est que le calme revienne, que la paix revienne, et que les choses reviennent, que le Sénégal retienne sa place dans le conseil des marchés.
Et le président Macky Sall a-t-il réservé une suite quelconque à cet appel?
Pour le moment, il n'y a aucune réaction par rapport à cela. Le président Macky Sall n'a pas réagi. C'est les intellectuels qui sont dans son camp qui ont réagi. En fait, c'est aussi c'est Maïkam qui a écrit un papier pour répondre à ces intellectuels qui ont écrit, en leur disant aussi, très bien, vous avez fait du bon travail en dénonçant ce qui est fait, mais vous devez aussi voir l'autre côté aussi, les responsabilités aussi, sont quelque part partagées.
Au-delà des intellectuels, il y a aussi l'influence des leaders religieux. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose?
Les religieux ne disent pas. Ce qu'ils disent, ils ne disent pas très haut. Mais ils sont en train de faire le travail de dégagation. Hier, le président Macron a été reçu par la religion de Mérida, qui est le plus grand conseil au Sénégal. Je pense que les autres religieux aussi vont entrer dans l'avant. Ils sont en train de parler, de discuter, pour apaiser la tension. Dans la délégation qui a été reçue par la religion de Mérida, il y a un représentant du président Macky Sall, il y a un représentant de Ousmane Sonko, le président de l'opposition. Voilà, je pense qu'ils ont tous été reçus dimanche dernier d'abord par le Khalif, avant que le président soit reçu hier par le général de Mérida. Et je pense qu'il y a des négociations qui se font, des discussions qui se font. Parce que aussi bien Macky Sall, Ousmane Sonko ont intérêt à avoir un pays en paix. Si Macky Sall gère un pays qui a un trouble, ça ne pourra rien faire. Nous sommes aussi quand il viendra pouvoir prendre un pays qui a un groupe, il ne pourra rien faire. Donc, au fond, la question de fond, ce sont les Sénégalais et les populations qui sont en train de subir la furie des politiciens.
Alassane Samba Diop, journaliste et analyste politique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, on a célébré hier la Journée mondiale de l'environnement. Le pays a été désigné par l'ONU pour la célébration officielle, occasion pour l'État ivoirien de revenir sur les actions de recyclage, mais également sur l'économie circulaire. Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan, nous en dit plus.
Vu la gravité de la situation, la Côte d'Ivoire veut mettre fin à l'usage des sachets plastiques et prend en 2013 un décret pour faire face à la question des déchets plastiques. Mais il faut aller au-delà avec des actions de sensibilisation. Jean-Luc Assi, ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement Durable.
La Côte d'Ivoire continuera à mener des actions en renforçant le partenariat public-privé, en accompagnant plusieurs entreprises dans la gestion durable des déchets plastiques au travers d'une approche d'économie circulaire, de création d'emplois verts, des changements profonds dans le comportement du citoyen et des mises en place d'un cadre juridique renforcé et incitatif.
D'autres solutions au plan mondial et beaucoup plus globales sont proposées par la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement. Inger Andersson du PNUE estime que la pollution plastique constitue une menace pour les populations.
Le monde produit plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Il faut redéfinir la conception de l'emballage pour réduire la quantité de plastique. Il faut redéfinir la conception du système et des produits pour faciliter la réutilisation et le recyclage.
Une lutte à laquelle s'associent les ONG à travers le recyclage des déchets plastiques, des initiatives qui cadrent avec le thème de la journée, solution à la pollution plastique. Edith Kouassi de l'unité de transformation plastique.
On a les rebuts et les bidons plastiques d'eau qui sont broyés, ensuite bien traités, qui donnent des différentes formes. Et ces différentes formes-là, on les recycle en plaques écologiques et des pavés. On fait le maximum pour réduire le CO2, le taux de carbone éjecté dans l'environnement.
Mouna Lekale, de Green Community.
Nous avons les objets d'art, ces objets qui ont été faits avec du capsule. On a aussi des tableaux, on a aussi des vêtements qui sont faits avec du capsule et du recyclage avec des sacs, avec des messages écologiques. Notre objectif, c'est de faire d'Abidjan une ville de zéro déchet plastique.
Choisi par les Nations Unies comme pays hôte pour porter le flambeau de la lutte contre la pollution plastique pour ce cinquantenaire, la Côte d'Ivoire se dit prête pour les actions de sensibilisation. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Après des heures de route dans le désert nigérien, elles surgissent comme des mirages au milieu d'une palmeraie enchevêtrée, forteresse de sel et d'argile dressée sur des éperons rocheux assiégés par le sable. Derrière les murailles crénelées, sommeillent des ruelles tortueuses, des tours de garde, des galeries souterraines, des passerelles, des greniers, des puits, témoignages du génie de bâtisseurs oubliés. Les détails dans ce reportage de Souleymane Ag Anara, le récit est de Rosine Mounezero.
Des générations de voyageurs ont rêvé devant les ruines des forts du Jado, situés à plus de 1300 km de Niamey, au nord-est du Niger, sans jamais résoudre leurs énigmes. Chercheurs et touristes ont déserté depuis 20 ans cette région troublée qui jouxte les frontières de la Libye et du Tchad à cause de l'insécurité. Le Kawar, jadis un important nœud des routes caravanières, est aujourd'hui un couloir des trafics d'armes et de drogues transsahariens.
Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, vraiment la commune ne profite pas de cet endroit. Vu vraiment l'insécurité qui est là.
L'autorité traditionnelle de Fassi, Kiari Sidi Tchagam, estime l'âge de sa forteresse à au moins 200 ans.
Ce fort-là a été construit, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même.
Le maire préfère ne pas s'avancer sur l'histoire du patrimoine communal. Il s'en réfère à de vieilles photocopies enfouies dans le placard de son bureau et tente à son succès d'élucider le mystère.
Il y avait un arabe qui était venu de la Turquie, selon les informations que nous avions reçues. Celui qui a donné l'ingénieuse idée aux gens de construire ce fort-là.
Les Kanouri auraient ensuite érigé leurs propres fortifications à Dirkou, Binma et Fashi, les principales oasis de la région. Une fierté pour leurs descendants, inquiets pour la sauvegarde de ces fragiles architectures de sel menacées par les pluies.
Vous savez bien que les gens ont toujours passé, ils ont toujours dit qu'il est vraiment impératif, il est nécessaire d'écrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est pas... Et la population, vraiment, on se retrouve à travers ce fort-là. On se retrouve à travers ça. Ça fait partie de nos cultures. Et ça fait partie quand même de toute notre histoire.
À Dirkou, où se trouvent les ruines d'une autre ville ancienne, c'est Hadji Marda Taher, ancien député, qui fait autorité sur l'histoire du patrimoine local. D'après lui, les Turcs établis dans la Libye voisine furent impliqués dans la construction de plusieurs khazars, et notamment ceux du Jadot.
L'histoire dit que le khazar du Jadot a été construit par les Turcs. Avant, c'était les Sao. Après les Turcs, maintenant, et en troisième position, les Kanouri.
Depuis 2006, les fortins du Jadot végètent sur une liste indicative en vue d'une éventuelle demande d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Abandonnés dans le silence du désert, les citadelles défendent encore leurs héritiers contre l'oubli.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
Quelques 25 millions de Nigériens vivent avec diverses formes de handicap. Leur pays a promulgué en 2019 une loi visant à promouvoir leur inclusion. Or, des organisations de défense des droits affirment que de nombreuses personnes en situation de handicap se sentent toujours marginalisées. Pour aider à résoudre le problème, un journal nigérien a créé un moyen d'atteindre davantage de Nigériens malvoyants. D'Abuja, le reportage de Timothée Obiezu, le récit est de Jacques Aristide.
En route pour le travail, comme chaque matin, Eleanora Boyo aime bien utiliser son téléphone portable pour se tenir au courant des dernières actualités en ligne. En tant que malvoyante, elle se heurte à des difficultés.
Je ne peux accéder à certains sites web ou à certaines applications avec mon lecteur d'écran, ce qui rend l'accès aux informations très compliqué.
Les Nigérians en situation de handicap constituent l'une des tranches les plus pauvres de la population, trop souvent marginalisés, disent-ils. En mai, un journal en ligne nigérian, The Cable, a lancé ce qu'il appelle une application d'information inclusive pour les personnes handicapées. Objectif, donner aux malvoyants un accès facile à l'information par le truchement d'une fonction vocale intégrée.
Quand j'ai téléchargé et parcouru l'application, c'était vraiment bien. C'était accessible, présumément. Mon lecteur d'écran pouvait l'utiliser. De plus, j'ai vu que certaines des impressions étaient très audacieuses, ce qui est accessible aux personnes malvoyantes, mais pas entièrement aveugles.
L'initiative est décrite comme la première application d'actualité adaptée aux personnes handicapées du Nigeria. Le projet est l'un des gagnants du Google News Innovation Challenge en 2022. Kolapo Olapoju est rédacteur en chef du journal.
We fight for persons with disability. Nous nous battons pour les personnes handicapées en tant qu'acteurs des médias. Nous le faisons à travers nos reportages, à travers certains des plaidoyers que nous faisons. Cependant, nous oublions que nous devons réellement leur apporter des solutions. Et nous avons dépassé l'ère des médias traditionnels. Nous sommes à l'ère des médias numériques.
Steven Idoko de l'Inclusive Friends Association est d'avis qu'il ne faut pas non plus oublier les personnes sourdes et malentendantes.
Ce type d'innovation ne devrait pas se limiter aux aveugles. Nous devrions également essayer de prendre en compte d'autres groupes de handicap. Il est important que des images alternatives soient fournies dans telle publication en ligne pour les sourds.
Alternative images are provided in such publications online for the deaf.
Des ONG réclament que la loi handicap de 2019, acquise après de nombreuses années de plaidoyer et de manifestations, soit véritablement mise en pratique dans la vie de tous les jours au Nigeria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet VOAAfrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.